Le phénomène de l'hypnose reste entouré d'idées de magie et de pouvoirs surnaturels. Il est sans doute aussi vieux que l'humanité et nous pouvons retrouver des indices dans les plus anciennes traces écrites connues. Je pense en particulier au papyrus Ebers que George Ebers a découvert en 1872 et qui décrit un traitement linguistique dans l'Égypte ancienne. On le retrouve également sur un stèle de l'époque de Ramsès II. Le médecin persan Avicenne, qui a vécu de 980 à 1037, a décrit une transe hypnotique dans un texte de l'année 1027. L'application thérapeutique de cette condition psychique, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'hypnose, a cependant commencé avec Franz Mesmer. Il est né en 1753 au bord du lac de Constance. Il a étudié la médecine à Vienne. Il a été fasciné par la gravité qu'Isaac Newton avait récemment découverte et qui, d'après lui, pourrait expliquer le mouvement des planètes. Mesmer pensait que le magnétisme pouvait avoir un effet comparable sur le corps humain. Et son premier succès thérapeutique est survenu en 1774, lorsqu'il a passé des aimants autour du corps d'une femme, Franziska Oesterling, qui ensuite a été libérée de sa souffrance pendant plusieurs heures. Mesmer s'est vite rendu compte qu'il avait obtenu le même effet, même sans aimant. Tout ce qu'il avait à faire était appliquer une pression sur certaines parties du corps, tout en regardant profondément dans les yeux du patient. Il a appelé ce phénomène « magnétisme animal », sans jamais soupçonner qu'il manipulait un effet purement psychologique. C'est James Bright, 1795 à 1860, un chirurgien écossais, qui a inventé le nom « hypnose ». Il a d'abord parlé de « neurohypnotisme », du mot grec « hypnos », « sommeil ». C'est un état dans lequel, contrairement au sommeil normal, l'attention est concentrée sur un point précis et éloignée du reste des perceptions, ce qui conduit l'individu à un état de relaxation progressive. Lui-même, il a appelé cet état altéré « sommeil nerveux ». Enfin, Hippolyte Bernheim, né à Mulhouse en 1840, a fait passer l'accent de l'état physique en hypnose à l'effet psychologique des mots prononcés en suggestion. Nous l'avons depuis considéré comme le pionnier de l'hypnose thérapeutique telle que nous la pratiquons encore aujourd'hui. Les premiers praticiens qui voulaient utiliser en thérapie l'hypnose manquaient d'expérience et aussi de recul. Ils n'étaient pas conscients des complications possibles et se sont parfois retrouvés dans des relations très difficiles. Ce fut notamment le cas de Sigmund Freud, qui s'est éloigné de cette approche et n'est jamais plus revenu. Les possibilités médicales de l'hypnose étaient donc depuis longtemps tombées en discrédit. Seul le psychiatre et psychothérapeute Milton Erickson l'a réintroduite comme méthode thérapeutique. Né en 1901 dans l'État américain du Nevada, il a lui-même souffert de la polio. Depuis alors, nous avons eu de plus en plus de participants aux conférences et congrès internationaux sur l'hypnose thérapeutique, notamment en Europe et au Canada. Aux États-Unis, l'intérêt pour l'hypnose médicale semble suivre un modèle à la mode comparable à celui de la psychanalyse. La psychanalyse était devenue omniprésente avant d'être à nouveau oubliée aux États-Unis. Les indications typiques de l'hypnose sont les phobies, les troubles liés au stress, le surpoids, les troubles du sommeil, les troubles sexuels, la douleur aiguë et chronique, le tabagisme et aussi l'énurésie nocturne. En outre, l'hypnose est également avérée efficace pour d'autres troubles, notamment dans le domaine de la médecine psychosomatique. Aujourd'hui, elle est souvent associée à une forme de thérapie comportementale. Cependant, elle a aussi ses limites et ne peut pas tout guérir. Nous devons d'ailleurs absolument tenir compte de la présence de causes organiques, de maladies psychiatriques et de graves troubles de la personnalité. Par conséquent, une clarification médicale des symptômes est toujours nécessaire avant d'entreprendre un traitement hypnotique en toute bonne conscience.